Bouteille Radio, le magazine féminin nouvelle génération. Hey, I'm the chick.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans YEG Radio, l'émission féminine nouvelle génération. C'est un plaisir de vous retrouver pour vos 30 minutes hebdomadaires dédiées à l'actualité rennaise au féminin. Et plus que quelques jours avant la sortie du numéro 25 de YEG, on compte sur vous pour être au rendez-vous. C'est lundi 5 mai sur yegmag.fr. Bien entendu, en attendant, vous pouvez vous rendre sur cette adresse pour lire le numéro 24 intitulé « Femmes au-delà des frontières ». On vous y encourage vivement. Elle est de retour dans YEG Radio, Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Bonjour Marie.
Bonjour Marine.
En forme ?
Oui, je vous ai manqué. Hein.
J'espère, en tout cas. Je ne sais quoi dire, tu vois. Bon, en tout cas, tu es allée le mois dernier à la rencontre des Rennaises pour connaître leurs sentiments vis-à-vis de l'identité européenne, des élections européennes.
Voilà, exactement. Je fais la rencontre de trois Rennaises et qui ont partagé avec moi leur point de vue sur ces élections. Assez surprenant, vous verrez.
Très bien, et bah, tu nous diras tout ça. Avec nous également, Jeanne-Françoise Huitain, présidente de la Maison de l'Europe de Rennes. Bonjour Jeanne-Françoise.
Bonjour, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Très bien, c'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir. Et sans plus attendre, on vous détaille le sommaire de cette émission. Cette semaine, on dédie l'émission au sujet du Focus, à lire dans le numéro 24 actuellement en ligne sur yegmag.fr. Le sujet du Focus, donc, les femmes et l'Europe, puisque nous sommes à la veille des élections européennes. On en parle avec la présidente de la Maison de l'Europe dans le 10 minutes avec Jeanne-Françoise Huitain et on s'intéresse au point de vue des Rennaises sur la question de l'identité européenne et des élections européennes plus précisément. Alors, en mars dernier, elles étaient plusieurs à interroger l'Europe à travers des expositions et conférences dans le cadre de la Journée internationale des femmes, qui était centrée cette année autour du thème de l'égalité femmes-hommes en Europe. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale des femmes, la ville de Rennes choisissait de tourner les regards vers l'Europe et c'est dans ce sens-là que sont orientées les expositions et les conférences auxquelles nous avons assisté tout au long du mois. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, vous pourrez en retrouver tout le contenu dans le numéro 24 de YEG. C'est simplement d'expliquer pourquoi nous avons choisi ce sujet, tout simplement pour informer et sensibiliser Rennaises et Rennais autour de la problématique du droit des femmes en Europe, et je dis Europe puisque les conférences allaient souvent au-delà de l'Union européenne et abordaient le sujet au sein de l'Europe géographique. Alors il nous a paru opportun et essentiel de rendre compte des différents sujets qui ont été mentionnés lors de ces manifestations, du port du voile en Europe aux conséquences de la dette publique qui impacte de manière directe les femmes, les différentes associations telles que Alouda, Mixité ou encore Question d'égalité, ainsi que toutes les intervenantes invitées, ont su expliquer et vulgariser les différentes problématiques liées à l'Europe et aux femmes. Alors ce qu'on a pu noter lors des conférences, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est à quel point le sujet désintéresse la population rennaise qui, on sait, ne fait pas exception en France, le problème allant bien au-delà des frontières de la capitale bretonne. Pourtant, l'enjeu du 25 mai reste entier et central en matière de droits des femmes. On voit bien, par exemple, ce qui se passe en Espagne avec la loi relative au droit à l'avortement. En tout cas, on aborde ces questions-là dans le 10 minutes avec Jeanne-Françoise Huitain, présidente de la Maison de l'Europe. C'est tout de suite après la chanson croustillante de Carmen Maria Vega. On vous laisse apprécier la menteuse.
Je mens passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent. Je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs, elle a pas une si grosse. Enfin, j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus, les pas si beaux. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement, me disait Johnny que je t'aime. Toi, t'as du talent, hein?
À moi, à vous, ah, merci.
Bah moi je m'en fiche, je sais plus quand. Je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny
fait, bah, il s'en remettra, bah, il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr, tout compte fait, c'est pas facile. Je voudrais fuir, partir de là, être seule sur une île. Bah moi je mens, mais pas à toi, parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi je mens, même si ça vous plaît pas bien, vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas finir à l'asile.
Ah, je vais pas y aller là-bas, ça fait long. Laissez-moi tranquille, me touchez pas.
Sans mon mauvais m'en souffert.
Moi je mens plus depuis ce matin. Depuis que j'ai fait du chemin, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement.
Elle est déjantée, Carmen Maria Vega. Vous venez d'entendre La Menteuse. C'est la chanson qui a lancé sa carrière en 2008. Il y a 10 jours, on a découvert son nouveau spectacle « Fais-moi mal, Boris », dans lequel elle interprète poèmes et chansons de Boris Vian. Évidemment, c'était à l'occasion du festival Mythos. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver tous nos articles et nos images des concerts et des spectacles qui ont eu lieu lors de Mythos sur yegmag.fr. Allez-y, n'attendez plus. Enfin quand même, attendez la fin de l'émission. Je me tourne maintenant vers Jeanne-Françoise Huitain, la présidente de la Maison de l'Europe que vous avez créée à Rennes fin 2001. Vous expliquez dans le focus de YEG que la Maison de l'Europe a vu le jour dans un contexte particulier puisque la monnaie unique venait d'arriver, que Rennaises et Rennais se posaient des questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément quelle était la volonté pour cette Maison de l'Europe ?
Notre volonté, elle, c'était tout simple. J'avais été candidate sur la liste de Simone Veil aux élections européennes. J'avais suivi plusieurs campagnes électorales. Et je me rendais compte que nos concitoyens ne comprenaient pas très très bien ce que disaient les candidats. Et donc je me suis dit, il faut absolument qu'on trouve une manière de leur faire comprendre ce que l'Europe apporte, ce qu'elle est, ce qu'elle cherche à être. Alors à l'époque, il y avait la monnaie unique. Les gens venaient me trouver avec leurs francs, disant comment, qu'est-ce que ça va faire, etc. Donc il y avait un sujet qui accrochait le public lambda, et c'est comme ça qu'on a commencé.
Et alors est-ce que justement aujourd'hui, il y a toujours cette même ébullition au niveau des habitants ?
Alors c'est vrai qu'on a eu une période de très grande joie, dilatation, l'Europe s'est élargie, on était heureux d'accueillir ou de faire revenir chez eux les Européens qui par l'histoire avaient été séparés de nous par des murs, mais c'était des Européens qui rentraient, c'est des gens qui avaient été séparés de l'Europe. Donc nous étions, il y avait la monnaie unique, il y avait cette dilatation, il y avait la préparation d'un traité qui devait faciliter notre vivre ensemble, oui. Donc il y avait toute une espèce de dilatation, puis voilà, toc toc. En 2005, ça s'est arrêté. Pourquoi ? La France et la Hollande ont dit non à cette évolution. Et là, il y a eu comme un ébranlement qui s'est passé en Europe. Beaucoup d'animosité contre la France, qui avait refusé un traité qui devait permettre à l'Europe de s'adapter aux questions nouvelles. Bon, la monnaie, elle était déjà dans les porte-monnaies, c'était plus ça le problème. Les questions, c'était le chômage, les questions, c'était les industries qui quittaient l'Europe. Donc, il nous fallait pouvoir, en Europe, prendre des décisions. Et puis, il y avait les grands conflits aussi au Moyen-Orient. Et on voyait bien que l'Europe n'arrivait pas à prendre de décisions dans ce domaine. Donc, les sujets avaient complètement changé. Il fallait trouver une manière plus efficace d'être européen. Et c'est ça que nous avons refusé la France.
D'accord. Et justement, c'est ce problème de compréhension, de désintérêt qu'on a qui a fait ce rejet.
Oui, alors aujourd'hui, si vous voulez, on voit comme une lassitude. Il y a ce chômage qui amplifie. Il y a un État français, je parle de tout le monde, je prends parti pour personne, mais l'État français depuis les années 80, 70, enfin 75, s'enfonce dans un déficit abyssal et qui a été couvert à partir de l'an 2000 ou protégé par l'euro. Et donc nous sommes rentrés dans une difficulté de gestion de notre pays très grave qui aujourd'hui se traduit tous les mécontentements que l'on a. Vous savez, on dit qu'il y a eu les 30 glorieuses après la guerre, et puis maintenant on a été dans les 30 stagnantes, et maintenant les gens pensent que on est en décroissance. Alors, ça n'est pas complètement vrai, mais il y a comme un espèce de doute sur la société et sur l'efficacité des politiques. Voilà. Donc il nous faut arriver, aujourd'hui, les questions qu'on nous pose, mais cette Europe, que fait-elle? À quoi sert-elle? Elle ne fait rien pour nous? Que fait-elle dans notre région? Etc. Donc nous avons créé une maison de l'Europe, au départ pour expliquer des politiques, et aujourd'hui pour essayer de montrer aux gens, à nos concitoyens, que l'Europe, elle est dans notre vie quotidienne, ici, à Rennes, ici, Radio Campus. Oui. Nous bénéficions tous de cette réflexion commune des Européens pour améliorer notre manière de vivre ensemble. Et ça, c'est ça qu'il nous faut arriver à faire comprendre. Et bon, nous essayons. Alors, nous avons beaucoup de questions qui nous viennent. Alors, avec le problème donc actuel de notre pays qui, répondre à des normes européennes. Alors là, je voudrais vous me donner une minute pour expliquer.
Je vous en prie.
En fait, beaucoup de nos concitoyens disent que c'est à cause de l'Europe que nous devons rentrer dans l'austérité. C'est à cause de l'Europe. En fait, c'est pas vrai. C'est pas à cause de l'Europe. L'Europe, elle a constaté que beaucoup de pays dans l'Union européenne rentraient dans la dette et dans un déficit qu'ils allaient difficilement pouvoir combler. Mmh. Et donc, ils ont décidé, tous les chefs d'État et de gouvernement, l'Europe, il ne faut pas oublier, ce sont l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui prennent les décisions. Ce n'est pas M. Barroso ou la Commission tout là-haut dans les nuages bruxellois. Ce sont nos chefs d'État et de gouvernement qui décident. Et ils ont décidé ensemble de mener une stratégie qui permette à l'Europe de retrouver plus d'emplois, le développement durable, améliorer la recherche, lutter contre la pauvreté, etc. Mmh. Et pour réussir à atteindre ces objectifs, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de montrer leurs budgets nationaux tous les ans à la Commission et à leurs collègues pour se mettre d'accord, pour savoir si on avançait bien tous dans le bon sens. Donc, cette surveillance de la Commission européenne, ça n'est pas la Commission européenne qui l'a décidé. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui disent pour qu'on réussisse, il faut que tous ensemble, on avance dans le même sens. C'est ça. Donc, c'est pas la Commission européenne qui décide de l'austérité. La Commission européenne, au contraire, elle veut que nous retrouvions la croissance. Mais pour retrouver la croissance, il faut que les gens soient mieux formés. Il faut qu'il y ait moins de décrochage scolaire. Il faut qu'il y ait moins de gens dans la pauvreté. Parce qu'on se dit pauvre en France, mais attendez, allez en Roumanie, allez dans certaines parties de l'Espagne, allez dans d'autres pays de l'Union, vous verrez que tout ça, c'est relatif, hein, quand même. Bon, il faut lutter contre la pauvreté. Il faut aussi faciliter l'accès à l'emploi. Comment se fait-il qu'il y ait des catégories de la population qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi et qui sont mieux formées que jamais, les jeunes, votre génération, mais aussi des gens de ma génération, mais les plus de 50 ans, enfin moi j'ai plus de cet âge-là, mais je ne le dis pas, mais les plus de 50 ans ont beaucoup de mal à continuer à travailler. Or, ils ont une espérance de vie peut-être de 40 ans encore. Ils peuvent donner une part d'eux-mêmes. Comment se fait-il que tant de catégories ne réussissent pas à trouver de l'emploi? Il nous faut retrouver de l'emploi. Mais pour pour ça, il faut que les entreprises vivent. Il faut que les entreprises... Et pour qu'elles vivent, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Il faut qu'elles soient à la hauteur des autres entreprises dans le monde entier. Parce que figurez-vous que la Bretagne, ce n'est pas un petit îlot, un petit bout d'Europe qui est dans la France. La France, ce n'est pas un ensemble bien clos par des frontières. L'Europe, ça n'est pas non plus une entité suffisante. L'Europe est une partie du monde. Donc on est dans la compétition avec les autres économies du monde, qu'elles soient chinoises, japonaises.
C'est un petit peu complexe quand même là, cette entité donc, qui fonctionne par décision des chefs d'État et des gouvernements, mais en même temps qui par exemple vote au Parlement des rapports initiatives, donc qui ne les... Des lois qui ne les contraint pas en fait à appliquer ces décisions. On a vu ça avec le rapport Estrella, le rapport Zuber, ça a été des rapports donc là vraiment qui concernaient le droit des femmes, mais ils ont été rejetés alors que c'était pas forcément des rapports qui allaient les contraindre à appliquer ces lois. Donc on a quand même deux choses avec cette Europe qui fonctionne de manière unitaire. Et en même temps, qui laisse la place, forcément, à chaque État.
Oui. Mais ça, c'est un principe fondateur de l'Europe. Il ne s'agissait pas de remettre toute la décision politique à une entité supérieure. Oui. Il s'agissait, alors il y a un principe, c'est un mot barbare, il s'agissait de faire en sorte que ce soit les niveaux les plus efficaces qui prennent les décisions. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Il faut que ce soit... Je me souviens, j'ai été conseiller régional dans mon jeune temps, et à ce moment-là, on a confié aux régions la gestion des bâtiments de lycée. Les bâtiments, c'était la région qui devait gérer ça. Eh bien, en quelques années, on a vu les lycées s'améliorer, devenir beaux, propres, avoir des médiathèques intéressantes, etc. Alors qu'avant, c'était des vieux bâtiments crasseux, etc. Donc, c'est vrai, la région était beaucoup plus à même de savoir ce qu'il fallait faire pour améliorer les lycées. Eh bien, dans toutes les politiques, c'est pareil. Et l'Union européenne n'a pas pour objectif d'imposer aux États. L'Union européenne, ce qu'elle cherche, c'est que les États acceptent de travailler ensemble pour ensemble penser l'avenir. Et c'est ça qui est compliqué. Mais c'est la vraie démocratie.
C'est ça aussi qui crée la confusion dans l'esprit des gens et qui désintéresse...
Oui, parce que quand des chefs d'État rentrent de Bruxelles en disant « c'est Bruxelles qui décide que... » Alors qu'en fait, ce sont eux. Alors, qu'est-ce qui décide? Ce sont les parlementaires. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'élection. C'est les parlementaires que nous allons élire le 25 mai. Je vous en supplie, votez pour élire les parlementaires qui vont porter l'envie d'Europe que vous avez. Si vous ne votez pas, eh bien, ce sera peut-être ceux qui voteront qui emportera, qui n'ont pas votre envie d'Europe. Donc, votez pour avoir amené des députés qui portent votre choix pour l'Europe.
Et donc le vote du président de la Commission.
Et alors, oui, parce que les parlements vont, d'une part, ceux qui auront la majorité au Parlement européen, proposeront au chef d'État de gouvernement une personne leur candidat. Donc c'est M. Schulz pour le PSE, Parti Socialiste Européen, et c'est M. Juncker pour le Parti Populaire Européen, et c'est M. Verhofstadt pour l'ADLE, et c'est pour les Verts, c'est M. Bové. Et madame, j'ai oublié son nom, c'est très mal. Oui. Mais c'est très mal. Vous voyez, vous me prenez la main dans le sac. C'est très mal. Oui, voilà. Donc nous devons élire des gens qui vont avoir un pouvoir. Et en plus, il y a une chose que personne ne sait. Si beaucoup savent, mais je tiens à le rappeler. C'est que le président de la commission, il va s'entourer de commissaires, qui sont un peu comme des ministres. Mais chaque commissaire ne pourra accepter sa charge que s'il est agréé par le Parlement européen. Admettez, M. Valls vient de constituer un gouvernement. Tous ces ministres, avant d'être nommés ministres, devraient être agréés par l'Assemblée nationale. C'est pas ce que nous faisons en France.
Non. Mais on demande quand même, par exemple, aux législatives, c'est quand même un vote qui confirme le choix du gouvernement.
Oui, mais c'est pas la même chose que des personnes. Oui. Alors, il y a ça, mais il faut bien savoir aussi que le Conseil européen, il est constitué des chefs d'État et de gouvernement que nous avons élus. Hein? Donc, c'est les gens que nous avons élus qui décident. Et qu'ils ont eu par aussi bien au niveau des États qu'au niveau du Parlement, qui prennent les décisions.
Voilà. Et alors, pour revenir à Rennes, Est-ce que les Rennaises et Rennais sont mobilisés sur cette question? Vous qui travaillez au quotidien sur la question de l'Europe, et comment on fait pour mobiliser
alors c'est vrai,
la population?
Alors comment on fait? Si vous pouviez me le dire, je serais ravie. Parce que nous essayons de toute notre force. Mais c'est vrai que nous avons été dans un contexte un peu compliqué parce qu'il y avait les élections municipales juste avant qui mobilisent beaucoup les gens parce que c'est notre ville, notre territoire.
Oui, c'est au plus proche.
C'est très proche. Et puis il y a une période de vacances dans laquelle nous sommes. Et puis on va avoir 15 jours, 3 semaines pour faire une vraie campagne pour les européennes. Or, les gens se désintéressent. Pff, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas de pouvoir. Déjà, il faut leur faire comprendre que les gens qu'ils élisent, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais la deuxième chose aussi, c'est que je suis effondrée. Et mes amis aussi, de la Maison de l'Europe, du mouvement européen, tous mes amis qui s'occupent d'Europe, même de l'université, de voir le peu de connaissances qu'ont nos concitoyens de l'Union européenne. Ils ne savent pas comment ça marche. Et ils ne connaissent pas les gens. Demandez dans la rue, qui sont nos députés européens qui sont en exercice depuis 5 ans? Demandez. C'est assez catastrophique. C'est assez catastrophique. Donc, il y a des intérêts, mais vraiment, je crois que c'est par manque de connaissances. Donc, nous avons un véritable effort, une véritable urgence. Bon, pour les élections, là, c'est presque trop tard, mais disons qu'on va quand même travailler pendant ce mois de mai. Mais pour l'avenir, il faut vraiment que l'éducation nationale se préoccupe d'inscrire plus la compréhension de l'Europe dans les études de tous les citoyens, quels qu'ils soient. Quel que soit leur niveau. Pas simplement les Erasmus+, hein, oui. Les Erasmus, hein, mais tous. Parce que tous, ils ont besoin de comprendre ce que fait l'Europe. De comprendre que l'Europe, elle n'a pas tous les pouvoirs. Elle a quelques pouvoirs. Et qu'elle essaie, sa fonction, ce qu'elle essaie de faire avec M. Barroso, c'est de faire se rencontrer le plus possible les peuples et les gens pour mieux se comprendre, mieux se connaître, afin de pouvoir créer une communauté de vie et garder l'envie de vivre ensemble. Et de faire un projet ensemble.
Très bien. Alors, avant de conclure cette interview, vous en parliez, le mois de mai va quand même être rempli. Et la Maison de l'Europe, je crois, a un programme un petit peu chargé quand même en ce mois de mai. Il y a plusieurs rendez-vous. Le 9 mai, la fête de l'Europe, ça c'est plus général. Le 12 mai, un débat autour de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces manifestations qui vont avoir lieu?
Alors, je vais vous parler du 9 mai, parce que au mois de mai, il y aura deux grandes manifestations. Le 9 mai. Le 9 mai, c'est l'anniversaire, 64e anniversaire de la fondation de l'Europe. Et cette fondation, ça a consisté non pas à faire un discours, si c'était un discours, mais c'était à dire, nous allons faire, bâtir, construire quelque chose ensemble. Nous allons construire la gestion du charbon et de l'acier ensemble. Donc ça n'était plus du domaine du discours, c'était du domaine d'un projet concret, réel, qui se mettait en place. Donc là, 64 ans, on fête ça. Mais cette année, nous avons voulu, donc nous allons chanter l'hymne européen, hisser les drapeaux européens. On va, lors de cette manifestation, qui aura lieu place de la mairie, entre midi et 2 heures, le 9 mai, nous allons inviter les peuples qui habitent Rennes, les gens qui habitent Rennes et qui viennent des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne. Parce que dites-vous bien que l'élargissement, c'était il y a 10 ans, au mois de mai. Donc on va essayer de faire venir un maximum de Polonais, de tous les gens qui sont arrivés, Lituaniens, Autrichiens, etc., qui sont arrivés à ce moment-là dans l'Union européenne. Mais surtout, nous allons faire un focus, puisque c'est un mot que vous aimez, nous allons faire un focus sur l'Ukraine. Nous avons décidé d'inviter les Ukrainiens qui habitent à Rennes ou dans les environs pour qu'ils nous chantent leur hymne, pour leur dire, nous sommes vos amis, vous n'êtes pas dans l'Union européenne, mais parce que nous avons fait beaucoup de chemin encore avant que vous y rentriez, mais nous sommes des amis, et nous savons que vous voulez vivre libre comme nous, libre dans votre conscience, etc. Donc nous allons faire un focus sur eux, et l'après-midi, entre 14 et 16 heures, à l'espace Ouest France, tous ces Ukrainiens vont venir nous dire leur amour de leur pays. Et donc, je vous invite aussi, si vous voulez, à venir. Donc, ce sera une première chose que nous ferons. Et puis, dans tout le département, tout au long de ce mois, nous avons des conférences débats, des cafés débats. Qu'est-ce que l'Europe? Comment marche l'Europe? Mmh. Comment prend-on une décision? À quoi servent les élections européennes, etc. Donc, il y en a une à Saint-Malo qui vient de se décider pour le 15... pour le, à l'instant, là, quand j'arrivais.
Pour le 15 mai,
pour
d'accord.
Pour le 15 mai. Il y en a dans beaucoup de villes du département.
Très bien. Donc, toutes ces infos, hein, on les suit via l'adresse maison-europe-rennes.org. Et on rappelle que les citoyens voteront entre le 22 et le 25 mai pour les députés européens. Et nous, citoyens français, sommes appelés à voter le 25 mai précisément. Merci beaucoup, Jeanne-Françoise Hutin, d'être venue nous parler de l'Europe et de la question des élections européennes. On continue de s'intéresser à l'Europe, aux élections européennes et à l'identité européenne en particulier. Avec toi, Marie, juste après Be My Baby des Ronettes. Bonne écoute sur YEG Radio. Avec Be My Baby, ça donne envie de danser.
Exactement, j'aurais pas dit mieux, Marie.
Bah allez, soyons sérieuses, l'identité européenne et les élections européennes inquiètent-elles les Rennaises ? Marie, tu es allée recueillir pour YEG le point de vue de trois Rennaises sur les élections européennes.
Et oui, Marine, de Fadma, Sophie et Pauline, trois femmes aux profils différents, résidant dans la capitale bretonne, à qui j'ai demandé quelle était leur opinion sur les élections européennes, à savoir si elles pensaient aller voter, si elles se sentaient informées sur les élections et ce que cela signifiait pour elles, tout en les interrogeant également sur ce qu'elles attendaient d'une institution telle que le Parlement et ce que voulait dire pour elles l'expression citoyenne européenne. Alors, leurs réponses ont été différentes à chaque fois. Sur les trois, deux pensent aller voter. D'ailleurs, ce sont celles rencontrées lors des événements organisés pour la journée internationale des femmes à Rennes. Il y a eu en premier Fadma, 30 ans. Elle espère aller aux urnes car elle s'implique au niveau, elle, politique. Elle se dit d'ailleurs fatiguée que l'on parle à sa place. Elle veut débattre, échanger, ne se retrouve pas dans des idées politiques actuelles. Les élections européennes seront donc l'occasion de donner de la voix et sa voix. J'ai le moyen de m'informer, je vais tâcher de m'y mettre, m'a-t-elle confié. Pour elle, le Parlement Parlement européen assure une équité entre les êtres. Il est là pour arbitrer et rappeler l'égalité des droits humains. Cependant, elle se demande quand même si le terme citoyenne européenne a un sens. Je pense aux Roms, qui sont des citoyens européens qui n'ont pas les mêmes droits que les autres. Droit au logement, de circuler ou de travailler du fait d'une identité qui gêne, d'une différence qu'ils renvoient, déplore-t-elle. Puis en deuxième, j'ai interviewé Sophie, 56 ans. Elle pense aller voter, mais par principe, car c'est un droit. Pour elle, l'enjeu de ces élections est d'être vigilant sur les acquis et de se préoccuper des gens plus que des profits. Je pense que nous ne sommes pas dans l'esprit d'une Europe sociale mais financière. À cause des problèmes économiques, on constate une dégradation des conditions sociales et les minorités comme les femmes en sont les victimes, signale-t-elle. Elle précise tout de même que pour elle, l'Europe signifie la liberté. Les Européennes peuvent boire un café, se promener ou se baigner sans problème, contrairement à certaines femmes du monde, a-t-elle précisé. Et puis enfin, j'ai interrogé Pauline, 29 ans. Contrairement aux deux autres, elle n'ira pas voter. Elle se déplace plutôt pour les présidentielles et les municipales. « Je me sens plus concernée par les problématiques locales et nationales », m'a-t-elle raconté. Cependant, elle attend du Parlement européen qu'il soit, et là je cite ses propres mots, « à l'image du Parlement français, un véritable lieu de discussion et de débat en tenant compte de chacune des préoccupations étatiques ». Malheureusement pour elle, décider de politique commune paraît compliqué par rapport aux disparités entre autres économiques et culturelle des États membres de l'UE. Elle se sent plus citoyenne française que citoyenne européenne, mais pense que les premières valeurs communes qui devraient faire l'unanimité en Europe sont les droits de l'homme, leur protection et leur diffusion, ainsi que la démocratie. Il faut savoir que ces trois femmes se sont accordées quand même sur un point. Elles pensent ne pas être assez informées sur les élections européennes, son fonctionnement, son but, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors pourtant que les politiques européennes engagent notre État, souligne Pauline. Pour les trois, il a fallu qu'elles réfléchissent un certain temps avant de me répondre, tant leur avis sur les élections n'est pas souvent sollicité. Mais pourquoi ? Voilà, c'est la question que l'on peut se poser. Pourquoi parle-t-on si peu des élections européennes ? Oui. Voilà, je retourne la question une fois de plus à Madame Butin, mais qui nous a déjà plus ou moins donné quelques réponses tout à l'heure.
Eh oui, ça c'est sûr, c'est une question complexe. YAG Radio, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas de panique, vous pouvez retrouver toute l'actualité rennaise au féminin sur yagmag.fr. On vous invite à aller faire un tour sur le site, parce que l'actu rennaise bouillonne, on le sait, mais c'est aussi pour y lire le numéro 24 de YEG. Et très bientôt, dès lundi précisément, vous pourrez découvrir le numéro 25. Merci beaucoup Jeanne-Françoise Hutin, c'était un plaisir de vous recevoir à l'antenne.
Merci à vous de m'avoir permis de parler de l'Europe comme ça, et sachez qu'on est nombreux à Rennes à vouloir faire comprendre comment, et ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire comprendre le Parlement européen, ce que fait le Parlement.
Eh bien ça c'est dit. Je remercie toute l'équipe de YEG Radio, Claude qui réalise cette émission. Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Le numéro 25 se termine. Marie, prête pour le numéro 26?
Ah oui, totalement prête.
Tout à l'honneur, d'accord.
Ah oui,
c'est
voilà,
tout
je
à
suis
honneur,
ravie de
Marie.
Participer à ce nouveau mensuel.
Merci à toutes et à tous. On se retrouve dans YEG Radio la semaine prochaine, même jour, même heure. Musique.